dans ce projet que nous allons vous présenter ce soir, parce que ce projet a évolué, ce projet a été modifié. J'avais dit au départ que sur les 31 hectares qui étaient proposés, 10 hectares seraient dévolus à des espaces verts et 20 hectares à de l'urbanisation. Nous avons reçu hier, à 14h, mais nous savions que ça allait arriver, nous avons reçu la notification de M. le préfet qui va nous donner un document qui va porter à la connaissance du public le nouveau PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, ce qu'on appelle un porté à connaissance, qui est plus restrictif que ne l'était l'ancien plan de prévention des inondations. Bien sûr que, comme disait l'autre, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on n'est pas quand même d'une autre planète, nous savons que quand il y a un risque, eh bien ce risque, nous savons le mesurer. D'ailleurs, en 2014, quand il y a eu les épisodes pluvieux que tout le monde a connus et dont certains d'entre vous avaient été particulièrement victimes, nous avons diligenté une étude hydraulique. L'homme qui l'a faite, il n'est pas tout seul, c'est Julien Mur, du cabinet Ingérop, qui va tout à l'heure vous parler de la manière dont cette étude s'est réalisée, les incidences qu'elle a eues sur les projets, la réduction de ce projet, qui, in fine, va vivre, bien sûr, toujours avec ce parti pris d'offrir un cadre de vie à la hauteur de l'espérance des anciens Melgoriens et des nouvelles populations. Je rappelle au passage, soit dit en passant, que dans cette salle, 80%, un petit peu moins, peut-être 3 personnes sur 4, sont éligibles au logement social. Logement social, c'est pas un gros mot. Ça veut dire que en 2017, nous devrons payer 170 000 euros parce que nous ne sommes qu'à 4% d'une norme qui est 25, que la loi solidarité et renouvellement urbain nous a imposée en 2000. Et quand nous aurons terminé ces 1150 logements en 2030, nous serons à 7%. Voilà. Donc je vous donne ces éléments qui sont également à prendre en compte du point de vue de l'État. Voilà. Donc je passe la parole à M. Mur. Donc, logement vacant, densification, le troisième volet, c'est extension. Voilà.
Juste avant que Julien Mur intervienne, l'année dernière, nous avons fait donc une réunion publique pour vous informer de l'avancée du projet de la fonte de Monguiot. Et plusieurs questions avaient été soulevées au regard des contraintes hydrauliques. Donc, Monsieur le maire s'était engagé avec son équipe et puis également leur aménagement à revenir vers vous afin de vous donner le résultat de ces études qui ont porté en fait sur ce qu'on appelle tout le bassin versant est de Monguiot. Donc, sujet qui a été également travaillé avec le CIMBO, dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le PAPI, qui était un plan de prévention en fait contre les inondations.
Plan d'action.
Oui, plan d'action, excusez-moi, sur les problématiques hydrauliques, sur un périmètre encore beaucoup plus large que le secteur est de la fonte de Monguiot.
Bonsoir à tous. Je vais vous expliquer rapidement. Je me présente, Julien Mur, du bureau d'études Ingérop. On a été missionné par la ville pour réaliser une étude hydraulique pour identifier les impacts hydrauliques et mettre à jour notamment les impacts hydrauliques sur toute la partie est de Monguiot, le bassin versant est de Monguiot, qui est identifié sur le plan que vous voyez par le périmètre rouge. Donc vous voyez que c'est un périmètre élargi par rapport au secteur seul qu'on appelle le secteur de la fonte, et c'est le périmètre qui part du canal au nord qui s'étend jusqu'au ruisseau de la Font à l'est, jusqu'à la limite de la déconstruction urbaine à l'ouest, et au sud l'étude a même porté à la modélisation jusque vers les étangs. L'objectif donc de l'étude, c'était une mise à jour des données de ruissellement et d'inondation sur le secteur, puisque le PPRI n'était pas optimal. Alors, qu'est-ce qui a été fait pendant cette étude? La première chose, c'était de modéliser le terrain. Donc, il y a l'ensemble du bassin versant qui a été modélisé. Il y a des logiciels spécifiques. C'est la cartographie que vous voyez sur la gauche. Ça a permis de définir, en gros, la pente qu'il y a sur le bassin versant. Et la deuxième, les deuxièmes données d'entrée qui ont été utilisées, c'est combien il y a d'eau qui coule sur ce bassin versant. Et donc, ont été intégrés dans cette modélisation différents types de crues, différents types de pluies, notamment la pluie que vous connaissez, que vous avez vue de septembre 2014, qui peut être classée comme une crue exceptionnelle au regard de la crue centenale sur le bassin versant. Une fois qu'on a intégré ces éléments topographiques et de pluie qu'on a intégrés dans le modèle, on a comparé le résultat du modèle avec les observations réelles que vous avez pu vivre avec les marques qui sont parfois encore existantes sur certains bâtiments et les photos notamment de la crue de septembre 2014. Ça a permis d'avoir un premier élément de validation, de comparaison. Et la double validation de cette modélisation est venue de la part des services de l'État avec qui on a échangé tout au long de l'étude sur la manière de modéliser les pluies, la manière de modéliser le terrain et la manière d'intégrer les résultats du modèle.
Je dis simplement que l'étude a été rendue en début d'été, à peu près, et que l'avis de l'État, après plusieurs navettes, nous est arrivé début novembre, voilà, pour situer la temporalité.
Et donc la carte que vous voyez sur cette présentation, c'est le résultat de cette modélisation hydraulique sur l'ensemble du bassin versant, et ça représente les zones inondées, mouillées, en cas de crues. Les crues maximum qui ont été pris comme référence à la demande des services de l'État. Et les différentes couleurs définissent soit des hauteurs d'eau, soit des vitesses d'eau. Là où on a du vert, c'est où on a une faible hauteur d'eau et une faible vitesse. Alors, mais je vais vous expliquer, madame. Les zones vertes, ça correspond soit à une hauteur d'eau inférieure à 50 cm, soit et une vitesse d'eau inférieure à 0,5 m par seconde. Voilà. Et la couleur orange, c'est soit une hauteur d'eau supérieure à 50 cm, soit une vitesse supérieure à 0,5 m par seconde. Voilà. Quand on est dans le vert, on est en dessous de 50 cm et en dessous de 0,5 m par seconde. Et l'orange, c'est dès qu'on bascule au-dessus d'un des deux critères. Et les zones blanches, c'est quand il n'y a pas d'eau.
Oui, ce qu'on peut dire simplement, c'est que la zone qui est orange, c'est une zone de ruissellement, et la zone qui est verte, c'est ce qu'on appelle une zone d'aléa modérée. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas susceptible d'être inondée, mais la crue exceptionnelle de 2014 a montré qu'à la marge, on pouvait avoir un peu d'eau.
Cette nouvelle cartographie des secteurs inondables sur la partie est de Mondio, vous le voyez rapidement, a eu un impact et aura un impact sur le projet de la fonte de Mondio qui se situe ici. Donc, je vais maintenant vous présenter l'impact sur l'ensemble de ce projet. Donc aujourd'hui, pour rappel, l'opération de la fonte de Mondio que vous voyez tracée en rouge, le périmètre de l'opération initiale, se portait sur 32 hectares sur lequel devait être réalisé à terme à peu près 1000 logements. Aujourd'hui, avec ces études hydrauliques, et comme l'a rappelé Monsieur le maire, ces études ont duré à peu près un an et demi, hein, parce qu'il y a de nombreux documents de modélisation à faire, des relevés de géomètres, des sondages qui sont à mettre et à laisser pendant un certain temps. L'étude qui a été remise au mois de juin a fait toute une série de navettes avec les services de l'État afin de voir quel était l'impact sur l'opération de la fonte de Mondio et où étaient les secteurs sur lesquels on pouvait continuer de construire. Les résultats de ces échanges, comme l'a dit Monsieur le Maire, sont intervenus tout début novembre. Et suite à une dernière réunion que nous avons eue avec Monsieur le Préfet il y a à peu près 10 jours, nous pouvons ce soir vous montrer l'impact sur le projet, qui est en fait toute la zone que vous voyez en verte et qui représente à peu près 15 hectares, va retourner sur un usage différent que du logement. Donc il va retourner à de l'espace agricole ou à un projet à valoriser autour de la nature, autour d'espaces publics. Mais sur tout ce secteur, on ne pourra ni remblayer, ni décaisser, ni faire aucun travaux d'aménagement. Donc c'est un point important sur lequel nous avons travaillé avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, avec les services de l'État et avec la commune. Donc aujourd'hui, les nouvelles perspectives sur ce projet. Au lieu des 1000 logements qui étaient prévus au départ sur cette opération à l'horizon 2030, c'est 700 logements qui seront réalisés. Nous restons toujours sur les 30% de logements sociaux, ce qui va représenter à peu près 210 logements à terme. Et Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, avec ces 210 logements, plus les logements qui sont en train d'être réalisés sur le centre-ville de Mogieux, sur toutes les opérations en collectif, il y aura à terme sur la commune 7% de logements sociaux sur l'ensemble du territoire de la commune Mogieux-Carmaux.
Sur l'opération, il y en a 230 qui sont prévus et on a en ce moment 180 demandes de Belvaurien et de Carmonnet en termes de logements sociaux. Je tiens à dire que pratiquement la demande, elle est locale et les coefficients d'attribution au cours des toutes dernières années nous ont amené à avoir, malheureusement pas tous, mais pratiquement la quasi-totalité des attributions sur le collectif qui a été fait sur la route de Lunette, sur les 33, on en a eu 33, et sur le dernier, on en a eu plus des trois quarts, et l'année dernière, en 2014, dans les logements qui sont libérés, sur 4, on en a eu 3, en 2015, sur 11, on les a tous eus, et en 2016, on en a eu 13 sur 15, voilà. C'est ça. Attendez, M. Palomares, s'il vous plaît, on termine et puis on vous donne la parole. Allez. Merci.
Donc, réduction du périmètre, réduction logiquement du nombre de logements, afin notamment de poursuivre les engagements que la Société de l'aménagement avait pris auprès des élus et puis également auprès de la population dans les différents ateliers de participation que nous avions fait pendant plus d'un an. Donc, afin d'assurer la qualité que nous avions promis sur ce projet, la réduction du nombre de logements était nécessaire. Par contre, tout ce qui est le parti d'aménagement qui avait été présenté dans les différents ateliers de participation, puis avait été présenté l'année dernière devant la population, ce parti d'aménagement reste inchangé. Par contre, il se fera sur un territoire plus restreint. Donc, on va rester avec les mêmes équilibres, c'est-à-dire la partie de bassin de rétention va être à peu près équivalente en pourcentage sur la totalité du projet. Et puis ces bassins de rétention feront l'objet d'une attention particulière pour être à la fois des espaces publics et des espaces de rétention nécessaires au regard du dossier hydraulique que nous aurons à déposer auprès des services de l'État dès 2017.
C'est-à-dire que la philosophie, le parti pris d'aménagement reste du logement, de l'activité commerciale, de l'activité professionnelle, des équipements publics. J'avais dit tout à l'heure que nous devions concilier extension et cadre de vie. C'est-à-dire qu'on est dans un aménagement d'espace urbain où les fonctionnalités de rencontre sont préservées avec, on aura par exemple un cabinet dentaire, un cabinet médical, on aura une blanchisserie, on aura un commerce qui viendra en complémentarité de ce qui existe sur le centre-ville, on aura une école, nécessairement. On aura donc des lieux de rencontre, c'est ce qu'on appelle le parti pris d'aménagement, c'est-à-dire qu'il y aura à certains endroits une certaine densité, mais on aura en contrepartie des espaces aménagés au sein de l'opération, mais également la possibilité d'utiliser tout cet espace vert, tout cet espace nature, au bénéfice des gens qui seront à côté, ou des gens qui seront d'ailleurs, un peu comme ce qu'on a fait dans la plaine des sports, où on a déployé plusieurs hectares, qui sont très fréquentés. Donc, l'exclusivité ne sera pas à ces à ces nouveaux arrivants ou à ces personnes qui, de Mouguio, centre de Canon, seront venus là, mais également pour toute la population.
Sur toute la partie donc, qui est impactée aujourd'hui suite aux études hydrauliques, leur aménagement avait acquis 11 hectares. Donc on n'avait pas acquis la totalité. Ces 11 hectares en fait, vont revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'agriculture ou à un projet autour de déambulation et naturelle. Vous me poserez certainement une question. Ben, les équilibres financiers aujourd'hui, quels sont-ils avec cette réduction du périmètre? Donc, nous avons également fait un travail très important avec la ville de Mobio, les services financiers, avec également l'État, et puis avec un nouveau partenaire qui va rentrer sur ce projet, qui est l'établissement public foncier de la région, qui va nous aider notamment sur les dernières acquisitions à faire sur le reste du foncier qui reste constructif.
Je rappelle simplement ce qu'est l'établissement public foncier, tout le monde n'est pas obligé de le savoir. C'est un organisme qui bénéficie de fonds prélevés sur vos feuilles d'impôt, que l'État, sur l'impôt foncier, qu'ensuite l'État capitalise pour aider les communes et les porteurs de projets le temps que les réalisations se fassent. Ensuite, quand le projet est terminé, nous rachetons, nous rendons l'argent qui a été avancé à l'établissement public foncier. Cet organisme n'existe que depuis 2008. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons commencé en 2006, on n'a pas commencé en faisant appel à leur service.
Et le PS n'intervient également que quand les projets comportent du logement social. C'est un organisme qui a été aussi créé pour faire du portage foncier, pour pouvoir après offrir du logement locatif aidé sur l'ensemble du territoire de la région.
On va dire qu'en l'occurrence, l'État, qui est souvent prescripteur, nous aide, il est facilitateur par ce dispositif en termes financiers et fonciers.
Donc, les équilibres financiers sont trouvés, entre autres, par ces éléments de collaboration avec d'autres partenaires. La réduction du périmètre entraîne de fait aussi une diminution des recettes, vu qu'on va construire moins de logements sur cette opération, mais également, parallèlement, une diminution du montant des travaux, et notamment des travaux hydrauliques qui, au départ, avaient été estimés... Alors, en dehors de l'opération, il y avait... presque 5 millions d'euros qui avaient été estimés dans les premières études sur tout le bassin versant est de Mobio, dont la fonte de Mobio devait participer à hauteur d'un peu plus d'1,6 million. Aujourd'hui, avec cette nouvelle étude hydraulique et cet impact, les travaux hydrauliques vont être beaucoup moins importants en termes de coûts, et pour la commune et pour l'opération. Tout cela en fait permettra aussi de compenser le portage foncier en fait des 11 hectares qui se retrouve aujourd'hui en zone inconstructible. En termes de planning, il était important de reprendre le planning depuis le début de cette opération qui, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, a démarré en 2006 pour la partie des études préalables, avec une partie également de concertation, une création de la ZAC qui est intervenue en 2013, et puis ensuite une concession qui a été confiée à leur aménagement, et puis comme beaucoup de projets parfois tout se passe de façon linéaire et puis il n'y a pas d'obstacle, et puis là il y a un obstacle qui est arrivé, ce sont les inondations en septembre 2014. Ce qu'il est important de rappeler, qu'avant 2014 tout le périmètre de la fonte de Mobio était en zone blanche non inondable. Le projet avait fait l'objet d'un arrêté de ZAC, donc d'une zone d'aménagement différée, un arrêté du préfet, qui avait permis en fait à la commune de faire une réserve foncière sur cette opération. Il y avait eu la création de la ZAC également, le SCOT, le PLH, enfin un ensemble de documents réglementaires qui avaient également acté du fait que cette opération se trouvait dans une zone blanche. 2014 arrive, des inondations importantes. Une population qui s'inquiète, on a eu notamment dans le cadre des ateliers participatifs sur la fonte de Mobio un nombre important de personnes qui nous ont dit « mais ces terrains sont inondables ». Oui, on l'a entendu, le maire l'a entendu, son équipe également. Donc ils ont diligenté cette étude auprès du bureau d'études Ingérop. Une étude comme celle qui a été faite sur le bassin versant est de Mobio ne se fait pas en 2 mois. On a pris acte de la position des services de l'État. De l'impact que ça a aujourd'hui sur l'est de Moguio et sur les zones d'expansion urbaine. Et puis on a travaillé ensemble pour essayer de trouver la meilleure solution. Et finalement, de cet impact hydraulique, on va en faire un projet. Alors, si le périmètre opérationnel va bouger, je dirais le projet global sur les 32 hectares va rester, et toute cette partie qui va redevenir agricole va participer aussi à la qualité globale de ce projet. Donc, je pense que quand on mène un projet de cette ampleur, et bien quand il y a un événement comme celui-ci qui arrive, on n'a pas baissé les bras. On s'est dit que de toute façon, il fallait répondre à la demande en logement. Il y a une demande importante sur cette commune, sur laquelle les élus souhaitent répondre. Ce projet va en répondre en partie, puisque le maire l'a rappelé, il va y avoir un travail à la fois sur les logements vacants et sur la densification, sujet qui a été aussi abordé dans le cadre des ateliers participatifs de la Fonte du Moguio, où on nous a répété à plusieurs reprises, oui, mais pourquoi vous étendez, pourquoi vous ne redensifiez pas? Monsieur le maire l'a évoqué, la redensification est un vrai sujet. Le schéma directeur qui est en cours, et il sera présenté, je pense, à la population courant 2017 par la commune, va montrer qu'il y a des endroits où on peut densifier, mais on ne peut pas densifier n'importe comment, parce que votre commune, c'est aussi une qualité de vie importante qu'il faut maintenir. Et le projet de la Fonte de Moguio répondra partiellement, tout en s'inscrivant aussi dans cet objectif de maintien de la qualité de vie.
Exactement, ce projet reste mon projet et il sera porté avec toute la volonté qui est la nôtre, avec un phasage dont on n'a pas parlé, mais peut-être qui viendra au cours des questions. Quatre tranches se succéderont pour décliner ce projet. Quatre tranches, la première sera au nord du projet, c'est-à-dire au niveau de la route de Lunel, et ensuite on redescendra par vagues successives au fil des ans, puisque ce projet, je le rappelle, est un projet qui se fera sur les 15 ans à venir. Voilà. Donc, on a une concession. Pardon ?
Je me suis emballée. Sur le planning, peut-être deux mots. Suite à ces inondations, à ces études hydrauliques, la commune va prendre au prochain conseil municipal une délibération pour relancer la concertation.
Lundi prochain.
Voilà, lundi prochain. Parce qu'en fait, elle doit relancer la concertation pour modifier le périmètre de cette opération. Avec un objectif de modification du périmètre au mois de juillet 2017. Parallèlement, les études hydrauliques vont être poursuivies. Il va y avoir une mise à disposition également d'un complément à l'étude d'impact avec l'agrément de l'autorité environnementale, avec un objectif ensuite en termes d'études opérationnelles et de travaux, d'une première tranche de travaux, je dirais, en 2018. Et avec un début de commercialisation fin 2017, début 2018. Donc ce qui nous amène à avoir les premiers habitants sur la première tranche de cette opération en 2019.
Ce qui n'a pas été dit, mais que tout le monde sait, c'est que les travaux seront précédés de fouilles préventives, qui également sont des délais qui se rallongent au dossier de loi sur l'eau et à l'étude que fera l'Adrial, puisque bien sûr ce dossier sera soumis à l'État, mais qui a aujourd'hui a approuvé, enfin, le principe d'un périmètre qui est certes restreint. Oui, il est restreint. Mais écoutez, on fait avec. Ça va satisfaire les personnes qui pensaient que ce projet était trop ambitieux. Il se fera toujours de manière qualitative, comme l'a dit tout à l'heure Mme Sori. Il fait partie des trois piliers que nous avons pour, disons, participer à la rénovation de ce cadre de vie. L'occupation des logements vacants, une centaine de logements, la densification à peu près 350 sur les 15 ans qui viennent, et ici 700 logements qui seront réalisés d'ici 2030. Voilà. Alors bien sûr, cette affaire, on vous est associé depuis le début. Depuis le début, on vous a dit, voilà quelle est notre vision des choses. Au nom de l'équipe, j'ai présenté cette vision. J'ai dit que nous adapterions, bien sûr, aux contraintes qui seraient celles de la nature, qui seraient celles de l'État, qui seraient encore plus difficiles que ce qu'on avait imaginé. Mais l'avancée de ce projet, elle se fait pour vous, mais elle se fera aussi avec vous. Au mois de janvier, nous allons prendre les candidatures des personnes qui souhaitent participer à des ateliers comme ceux qui ont été déjà organisés, des ateliers participatifs, des tables rondes, autour desquelles nous vous présenterons des éléments relatifs à la densification, mais aussi à ce projet. Pour ce projet, leur aménagement est missionné pour mener des destinées, pour commercialiser et concevoir avec le richesse associé cabinet parisien qui accompagne ce projet, viendront vous associer avec bien sûr le cabinet Jérôme, puisque la veille hydraulique sera toujours de mise, et donc se tiendront deux tables rondes au mois de février, une à Montbiot et une à Vernon. Ensuite, des rendez-vous seront pris à partir de ces tables rondes pour vous dire quelle est l'avancée du projet, comment par exemple nous allons, en bordure de l'existant, eh bien, faire des petits lots à bâtir, des petites villas, pour ne pas que les riverains, s'il y en a dans la salle qui sont rassurés, s'imaginent que ce qu'on redoute dans le centre-ville avec les vues servantes, on ne le subisse pas non plus dans l'extension, en bordure de l'endroit où les gens ont la nature comme voisine. Voilà. Donc ces choses-là, bien sûr, vous seront exposées, et les endroits où l'urbanisme sera un peu plus dense seront les endroits vers l'est qui seront éloignés des habitations existantes. On ne veut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, bien entendu. Voilà. Donc, maintenant, place aux questions et à vos interrogations, aux suggestions. Elles sont les